Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, vous avez donc entendu cette péricope de l'évangile de Saint-Luc qui suit immédiatement la guérison du serviteur du centurion par Jésus le Christ au début du chapitre 7. Et on imagine très bien la scène telle que Saint-Luc nous la raconte. Une mère accablée de chagrin, mais vraiment accablée, qui est l'image du désespoir. Elle est veuve et elle a perdu son fils unique. Donc, si vous voulez, elle est dans une solitude extrêmement grande, une solitude un peu inimaginable pour nous, mais dans le contexte religieux, social de l'époque, c'est une très très grande solitude. C'est un peu l'image de la mort de l'âme. Cette femme n'est plus rien, elle n'a plus de raison de vivre, elle n'a plus d'homme pour l'aider, pour la soutenir, pour être un bâton de vieillesse pour elle. Elle est seule, totalement, complètement seule, et donc désespérée. La désolation est totale. Et là, donc, Jésus passe par ce chemin vers la ville de Naïm, ou de Naïm, selon les traditions, mais je pense que c'est Naïm, comme me le disait le diacre Laurent tout à l'heure. Donc il passe par là. Et vous remarquerez que dans les autres miracles que fait le Christ, il y a des gens qui demandent, « Fils de David, aie pitié de moi, rends-moi la vue, ou sauve-moi. » Vous voyez, il y a des demandes qui sont faites. Et là, personne ne demande rien. Personne n'implore Jésus de faire un miracle. Je crois qu'il y a un autre cas dans les évangiles, c'est à la piscine de Bethesda, où là il me semble que le Christ prend l'initiative vis-à-vis de cet homme paralysé depuis 38 ans qui ne bouge plus. Il me semble que c'est en tout cas extrêmement rare que le Christ prenne l'initiative, qu'il ne réponde pas à une demande, si vous voulez. Là, il n'y a aucune demande. Par exemple, pour la résurrection de la fille de Jaïr, qu'on va lire dans 2 ou 3 semaines. Jaïr, le chef de la synagogue, demande de l'aide au Christ. Pour la résurrection de Lazare, Marthe et Marie appellent le Christ. Il répond, si vous voulez. Là, il ne répond à rien, il n'y a pas de demande, il n'y a que sa compassion à lui, sa compassion profonde, si vous voulez, pour cette femme qui pleure et à qui... et de qui il s'approche pour lui dire « Ne pleure plus, ne pleure plus. » Et Jésus fait arrêter les porteurs du cercueil. Que sont les porteurs? Quand je lis ce texte de l'Évangile, je pense un peu à ces porteurs qui amènent un paralytique devant le Christ et qui descendent par le toit. Vous vous rappelez, parce qu'il y a trop de monde. Donc ils enlèvent des tuiles du toit et ils descendent le grappin du paralytique. Il y a des porteurs là. Et ces porteurs, dans ce miracle où Jésus rend le mouvement au paralytique, ces porteurs, ce sont l'Église, ce sont nos diptyques. C'est quelque chose qui fait partie donc de l'Église. Là, les porteurs ne sont rien de particulier. Mais qui sont ces porteurs qui emmènent le mort vers le cimetière? Eh bien, c'est peut-être, si vous voulez, je dirais nos pensées, les pensées qui ne cherchent pas à guérir, qui nous emmènent vers la mort simplement, qui nous emmènent vers la destruction, vers l'anéantissement, vers le rien. Ce sont ces pensées, si vous voulez. Et le Christ les arrête, justement. Donc, on pourrait dire que symboliquement, il arrête les pensées qui nous mènent vers le tombeau. Et donc, le Christ, ayant fait arrêter les porteurs, ordonne au jeune homme de se lever. Ce n'est pas une résurrection au sens propre du terme. C'est une réanimation plutôt. C'est un cadavre qui est réanimé. La résurrection, ce n'est pas un cadavre qui sera réanimé. C'est une résurrection totalement différente. Mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est un autre problème ça. Là, c'est une réanimation, parce que cet homme, ce jeune homme, comme Lazare, comme la fille de Jaïr, ils vont mourir, ils vont devoir mourir une deuxième fois, si vous voulez. Et là, il n'y aura pas de réanimation pour eux. Ils attendront la résurrection, comme tous les êtres, justement, qui sont endormis dans le Christ. Et c'est le silence. On peut penser, on peut imaginer que les pleureuses, les femmes qui se lamentaient, tout ce bruit qu'il y avait autour dans les cérémonies orientales, il y a beaucoup de bruit, il y a les pleureuses. Même, je me rappelle très bien que lorsque l'archidiacre de Limour,
Arsène
est mort. Il y avait sa mère qui a pleuré pendant toute la cérémonie, mais qui pleurait à haute voix, à côté du cercueil où reposait donc l'archidiacre Arsenios. Elle pleurait, elle faisait du bruit, si vous voulez. Et je me disais, ben oui, c'est ça, c'est l'habitude orientale de pleurer tout haut, de se lamenter, si vous voulez. Et là, on peut penser que quand le Christ arrête les porteurs, on peut penser que le silence se fait, que le silence se fait. Et que ce silence, eh bien, c'est un silence dans lequel le jeune homme qui est mort va entendre la parole « Je te l'ordonne, lève-toi ». Et il se lève, effectivement. Et se lever, c'est le même mot aussi en grec que résurrection. Enfin, il y a des familles de mots qui sont semblables là. Donc, il se lève à son tour. Et donc, que nous donne à comprendre cet évangile. Il nous donne à comprendre que quand tout semble désespéré pour nous, quand tout semble détruit, quand on a le sentiment d'avoir perdu l'essentiel, quand on pense que nos péchés sont insurmontables, qu'ils nous écrasent tellement ils sont lourds, qu'on n'en sortira jamais, qu'on est totalement donc découragé, eh bien, cet évangile nous rappelle que Jésus le Christ est là, qu'il est présent, et qu'il nous dit aussi dans le silence, mais encore faut-il faire silence dans notre âme. Il nous dit en silence, ne pleure plus. Et il nous dit, il s'adresse à la force vive en nous, cette force qui est appelée à la résurrection, il dit, lève-toi, relève-toi, repars, marche de nouveau en ma présence. Le Christ dit cela. Et si vous voulez, quand je préparais quelques mots sur l'homélie, ça m'a rappelé un texte de Giraudoux à la fin de la pièce Électre. À la fin de la pièce Électre, tout est détruit, c'est le bazar, c'est même pire que ça. Tout est cassé, les gens s'entretuent. Et il y a une femme qui s'appelle la femme Narcisse et qui demande à un mendiant qui est installé au bord du chemin. Et elle lui dit, mendiant, comment cela s'appelle-t-il? Comment cela s'appelle-t-il lorsque le jour se lève et que tout est gâché, que tout est saccagé, qu'on a tout perdu, que la ville brûle, que les innocents s'entretuent et que les coupables agonisent, que tout brûle, que tout est désespéré? Comment cela s'appelle-t-il et que le jour se lève pourtant? Et le mendiant lui répond, cela porte un très beau nom, femme Narcisse. Cela s'appelle l'aurore. Cela s'appelle l'aurore. Et cet épisode de l'évangile, c'est cela qui est en cause. Quand tout est perdu, quand on a l'impression qu'on n'en sortira pas, qu'on est désespéré, qu'on est écrasé par le péché, donc qu'il n'y a plus d'espoir, eh bien, le Christ est là. C'est quand même l'aurore. Le jour se lève dans notre âme. Parce que le Christ est là. Parce que c'est lui qui nous relève. Parce que c'est lui qui nous sauve. Parce que c'est lui qui nous prend par la main et qui nous tire vers lui. Et comme je vous le dis souvent, pensez que la seule chose importante, quand nous prenons conscience du péché qui est le nôtre, c'est pas de désespérer. Il ne faut surtout pas désespérer. Surtout pas. Il faut simplement songer que l'important, c'est de prendre la décision qu'on ne retombera pas après. Prendre la décision qu'on ne retombera pas, c'est le repentir. C'est le repentir. Prendre la décision qu'on ne retombera pas avec la grâce de Dieu, c'est le repentir, cela. Alors, bien sûr, on retombera tôt ou tard. Bien sûr, on va se retrouver dans les mêmes ornières. Mais de nouveau, on reprendra conscience que le Christ est là, que ce qu'il nous prend par la main, qu'il nous relève. Et à chaque fois qu'on retombe, il est toujours là pour nous dire, ne pleure pas, relève-toi. Le Christ n'est pas là pour nous juger. Il le dit lui-même, qu'il n'est pas venu pour juger le monde, pour juger, mais pour sauver, justement, pour libérer. Et le regard du Christ est un regard d'amour, de compassion, de tendresse, mais jamais de jugement, jamais de jugement. Quand la pécheresse vient, vous savez, quand il dîne chez Simon le pharisien, ou qu'il déjeune, je ne me souviens plus, et que la pécheresse vient répandre du parfum sur ses pieds, et qu'elle les essuie avec ses cheveux, le Christ, alors c'est une prostituée pourtant, le Christ ne la condamne absolument pas, il ne la juge pas, de même que la femme adultère. Mais il dit à Simon qui se... est un peu... comment dirais-je... enfin, surpris négativement, qui est choqué par cela, il dit à Simon, « Toi, tu ne m'as pas lavé les pieds. » Et elle m'a lavé les pieds avec un parfum très précieux, et elle les essuie par ses cheveux. Le Christ ne nous juge pas, jamais, jamais. Il nous aime tels que nous sommes, et il nous prend par la main pour nous tirer vers lui. Mais comme je vous le dis à chaque fois, et pardonnez-moi de radoter encore une fois de plus, mais je crois qu'il est important de bien nous rappeler que la foi, c'est la confiance, la foi intellectuelle, croire intellectuellement en Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, ça ne sert à rien, enfin, ou pas à grand-chose, disons, si vous voulez. Enfin, si, c'est important quand même, naturellement, je dis ça ne sert à rien, mais j'ai tort, c'est important. Mais c'est bien plus important de penser que le mot foi, c'est le même mot, c'est la même racine que le mot confiance. Et avoir la foi, c'est de dire je crois en Dieu, etc. Mais c'est aussi et surtout avoir confiance que ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit nous aime, nous aide et ne nous abandonne jamais. Donc la confiance, le courage pour nous relever, il faut se relever, dire mais j'y arriverai jamais, on se relève quand même. Parce que le Christ nous tire vers lui et qu'on sait que ce n'est pas par nos propres forces que nous nous relevons, mais parce que lui nous tire vers lui, sa miséricorde nous amène vers lui. Et enfin la confiance, la patience, parce que cela peut durer la vie entière. La vie entière, si vous voulez. Je lisais hier un texte sur Saint Grégoire Palamas, qui a mis des années, un peu comme Saint Silouane, qui a mis des années et des années avant que le Seigneur exauce une prière qu'il lui faisait pour demander la paix intérieure. Il a mis des années à recevoir cette grâce, mais jamais il ne s'est découragé de demander la grâce. Jamais il ne s'est découragé. Et effectivement, de même que Saint Silouane, au bout de plusieurs années de patience, qui m'a vraiment continue, eh bien, il a reçu la grâce qu'il demandait. Le Christ est présent et il nous dit, comme cette femme, ne pleure plus, et comme ce jeune homme, lève-toi, relève-toi. Et faisons-lui confiance et remettons-nous nous-mêmes à lui. Amen.